Tous les matins, retrouvez la matinale de Radio Campus, préparée et animée par les étudiants de l'Académie ESJ.
Bonjour à tous, merci d'écouter Radio Campus. Ici Guillemette pour la matinale des étudiants de l'Académie ESJ Lille. Aujourd'hui, on vous a préparé une émission qui va permettre une douce transition de vos rêves à la réalité, puisqu'on va parler des légendes. Vous allez être incollables sur leur origine, leur localisation et même sur leur fabrication. Alors restez attentifs. D'ailleurs, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la chronique de Gabin Boquet qui va nous parler de l'origine des légendes. Que sont-elles et pourquoi sont-elles aussi fascinantes? C'est tout de suite.
Faisons étape aujourd'hui sur l'un des sujets qui fascine, passionne et captive le plus. Parlons de la légende. D'où vient-elle? Pour bien comprendre de quoi il s'agit, remontons le temps jusqu'à l'époque médiévale. La légende y est alors un récit écrit qui a pour visée d'être lu publiquement. Généralement, il s'agit d'une hagiographie, c'est-à-dire le récit de la vie d'un saint. Elle est lue dans les monastères pendant les repas ou dans les églises pour l'édification des fidèles lors de la fête d'un saint. Puis parcourons le temps, car au XVIe siècle s'opère un glissement de sens. La légende devient un récit à caractère merveilleux où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire et l'invention poétique. Dans ce genre de littérature, la précision historique passe ainsi au second plan par rapport à l'intention spirituelle. Le légendaire désigne l'auteur, le légendier le recueil de légendes hagiographiques. Pour se construire, la légende s'appuie surtout sur certains éléments clés. Ça peut être un objet, un personnage, une histoire ou même un lieu. Par exemple, pas de légende sans les géants de Douai, la bête du Gévaudan ou encore la forêt de Brocéliande. Mais quelques précisions s'imposent sur certains points. Quelle différence entre la légende et le mythe? Dans le langage courant, les notions de mythe, de légende, de conte et de fable sont souvent confondues. La légende diffère du mythe en ce qu'une légende tient de faits réels. Le mythe, lui, renvoie à une histoire inventée pour fonder des croyances dans un monde divin. Ce qui fabrique la légende, c'est le temps et la transmission orale. Par l'effet du bouche à oreille, elle mêle le vrai et le faux. On parle de légende urbaine, un mix de genres littéraires qui se rapproche très franchement de la rumeur ou du canular. Alors pourquoi s'intéresse-t-on encore aujourd'hui à ces légendes? D'abord, parce que certaines rassurent, comme celle de l'effet Mozart, qui consiste à penser qu'à court terme, l'écoute de la musique composée par Mozart peut induire à une amélioration de l'exécution de certaines tâches mentales. Et puis aussi parce que les légendes sont le livre ouvert de nos coutumes et de nos croyances d'autrefois. Elles ont un rôle de transmission et de partage. Elles font partie de notre patrimoine et de la culture de nos régions. Et puis qui ne sait jamais plus de pouvoir s'abandonner totalement à l'un de ces récits? Qui n'a jamais espéré que celui-là soit véritable? À qui le frisson n'est-il jamais venu? Longue vie à la divagation et au désir tendre de fiction.
Merci beaucoup à Gabin Boquet qui nous a bien éclairé. Et tout de suite, un peu de musique pour se mettre dans l'ambiance de cette matinale épique, Legend par 21 Pilots.
Classic. with you again.
J'espère que de là où vous nous écoutez, vous avez pu vous trémousser. On retrouve tout de suite la chronique de Léonie Castelin qui va nous expliquer le rôle des légendes dans la société, en passant par la religion, la culture, les voyages et l'histoire. Ça fait rêver, non ?
Vous voulez savoir quelle place ont les légendes aujourd'hui dans notre société ? Léonie nous l'explique tout de suite sur Radio Campus. Si vous cherchez légendes et histoires sur Internet, vous serez ravis de connaître les 4 légendes du football qui ont marqué 2 clubs. Ou encore les 11 de légendes ou les stades de légendes. Sauf que, comment vous dire que si je vous parlais de football, vous sentiriez très bien l'arnaque. Alors n'en déplaise, j'ai poussé un peu plus loin et j'ai voulu revenir au sens originel de la légende, qui est donc un récit traditionnel et populaire, parfois à tendance fabuleux, pour vous montrer que les légendes ne sont jamais très bien loin de nous. Tout d'abord, elles sont au cœur de nos programmes d'histoire. Comment évoquer Rome sans parler de la légende de Romulus et Rémus ? Souvenez-vous de ces 2 frères élevés par une louve se battant à coups de comptage d'oiseaux pour la ville qui deviendra la plus puissante de l'Antiquité ? Je suis sûre que cette légende parle à tout le monde. Les professeurs d'histoire antique pourront aussi vous captiver avec des histoires de Jupiter et de l'abeille, ou de Jupiter et de Io. D'ailleurs, je vais vous la raconter. Io est une des amoureuses mortelles de Zeus. Connu pour son comportement de Casanova, Zeus est tombé amoureux de Io et s'est transformé en nuage noir afin de pouvoir vivre au plus près d'elle, tout en se cachant de son épouse Héra. Perspicace, Héra remarque le nuage noir et l'identifie facilement comme étant son mari. Du coup, Zeus transforme Io en une vache blanche afin de la protéger de la colère de sa femme. Pratique d'être un dieu, non ? Et puis Zeus, après le nuage, décide de devenir un taureau pour être au plus près de sa belle vache. Héra finit par atteindre la vache blanche et l'attache sous la surveillance d'Argos, un géant aux 100 yeux. Zeus, afin de libérer Io, envoya son fils Hermès raconter de longues histoires à Argos pour qu'il dorme, le tue et libère Io. Sachant tout cela, Héra envoie un taon pour piquer Io. Io, agité, part en Égypte, s'y installe et devient la première reine égyptienne. Alors cette légende explique la raison pour laquelle Io est venue en Égypte, mais plus étonnant encore, elle explique pourquoi les paons ont de magnifiques taches blanches et noires sur leurs plumes. Vous ne voyez pas ? Ce sont en fait les yeux d'Argos qu'Hermès a récupéré et mis sur les plumes de son animal favori. Alors vous allez vous dire que les légendes ne sont présentes que dans les cours d'histoire antique. Détrompez-vous, le Moyen-Âge est source à de nombreuses légendes à caractère chevaleresque, comme le Lindenschmidt du château de Lovenstein. L'histoire moderne est aussi truffée de légendes qui changeront les comportements sociétaux, comme la légende de Barbe Bleue. À l'époque contemporaine, c'est la prise de position de Mérimée sur les légendes qui les remet sur le devant de la scène. Il dit même « Hérodote vint et gâcha tout ». Hérodote avait en effet engagé la lutte de l'histoire contre la légende. Ainsi, la question de la relation conflictuelle entre forme historique et forme légendaire ne semble jamais s'être posée avec tant d'acuité au XIXe siècle. Mais si la relation entre les légendes et l'histoire vous intéresse, je vous conseille l'ouvrage de Claude Millet, Le légendaire au XIXe siècle. La religion est un autre pilier de notre société, et leurs légendes sont au cœur de nos vies. Les légendes arabes ont les traits des anciennes croyances pré-islamiques. En effet, le centre physique de l'islam, la Mecque, avant son avènement en 622, était couverte de symboles représentant démons, djinns et autres créatures surnaturelles. Cela a créé un contexte favorable aux légendes. Histoires de génies et de ghouls se sont même diffusées à travers le monde par le biais du livre des Mille et Une Nuits, dès le 9e siècle. Les légendes judaïques et chrétiennes sont aussi dans notre paysage quotidien. Pour les chrétiens et les juifs, les légendes sont utilisées dans une fin d'éducation religieuse. La première étant la légende dorée, le combat de Dieu contre les esprits du mal. Plus universelle, sans connotation religieuse, tout le monde sait à quoi ressemble un ange. Eh bien, saviez-vous que cette entité céleste est en fait d'origine judaïque et apparaît lors du sacrifice d'Isaac, retenant Abraham de lever la main sur le fils aimé de Dieu. L'ange apparaît aussi dans la Bible pour l'annonce de la grossesse de Marie. Alors si pour certains l'ange n'a aucune connotation religieuse, la légende de ces petits êtres angéliques ou démoniaques se trouve partout. Publicités, films, séries. D'ailleurs maintenant, parlons culture. Et parlons spectacle. Si je vous dis légende du roi Arthur, légende de Jimmy ou encore légende du roi, le retour du lion, toutes trois ont été reprises dans des spectacles musicaux et pour certains d'entre eux ont cumulé un succès phénoménal. 300 000 spectateurs en 150 spectacles, pour la légende du roi Arthur. La légende fascine et attire toujours alors. C'est presque un coup marketing comme un autre. Écoutez ça.
Comme
chercher le Graal, la jeunesse éternelle, le potos dans les veines.
Ce titre de Kyo qui a traîné dans vos têtes pendant toute l'année 2014 est en fait une grosse référence à la légende arthurienne et aussi religieuse du Saint Graal. En fait, cet exemple c'est un peu un mélange de tout ce qui vient d'être dit à propos des légendes religieuses, des légendes historiques et des légendes culturelles. Alors pour finir, j'aimerais vous parler d'un fait qui m'a étonnée en préparant cette chronique pour vous aujourd'hui. Saviez-vous que des agences de voyage vous proposent des trips vers des lieux de légende ? Et ce n'est pas dans le sens paradisiaque que je dis ça. On vous propose de partir sur les pas de Merlin et du roi Arthur en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, ou encore en pays celte à l'ouest de l'Écosse, à la découverte des mystérieuses pierres dressées de Calanée, plus anciennes encore que celles de Stonehenge, selon des études récentes. Savourez la tranquillité de ces espaces sauvages, de ces plages merveilleuses et de ces bouts du monde comme les îles de Harris et de Skye. Enfin, ça ce sera quand nous pourrons sortir bien sûr. Alors chers auditeurs, voyageons ensemble, résolvons les mystères et surtout n'oublions pas de rêver.
Merci beaucoup à Léonie Castelin. Décidément, on en apprend tous les jours. Notre matinale continue et on va essayer de vous faire rêver un peu plus en écoutant Quelque chose de magique par la légende du roi Arthur.
J'ai vu des fées maléfiques me barrer le chemin, goûter aux effets toxiques des hommes et leur venin.
J'ai défait le vent, inversé le temps pour retrouver tes pas, tuer mes démons, braver les tourments pour arriver à toi.
Dans une course fantastique sur le chemin du Graal,
j'ai défié des nuits, chassé les esprits qui troublaient ma foi. J'ai veillé tes jours, invoqué l'amour pour arriver à toi.
Et voilà, écouter Radio Campus, c'est aussi mettre un peu de magie dans sa vie. Et maintenant, Clémence Fourel a interrogé pour vous des personnes de son entourage sur leur rapport aux légendes. C'est l'heure du micro-trottoir.
Allô, c'est le micro-trottoir confiné. Les étudiants, on vous donne la parole.
La sorcière est un exemple de personnage autour duquel s'ajoutent beaucoup de légendes ou mythes et est encore présent dans la culture populaire aujourd'hui. On la voit beaucoup lors de la fête d'Halloween par exemple. À l'origine, les femmes que l'on appelle sorcières étaient souvent au Moyen-Âge tardif et à la Renaissance des guérisseuses qui utilisaient des plantes pour faire des breuvages, une sorte de médecine naturelle. Seulement, la sorcière, c'est aussi un personnage opprimé lors des fameuses chasses aux sorcières. Les femmes seules, sans enfants, vieillissantes, célibataires ou veuves, en bref, les femmes indépendantes, qui n'étaient pas sous le contrôle d'un homme, étaient en fait visées et chassées, et particulièrement lorsqu'elles étaient guérisseuses. C'était des femmes qui ne correspondaient pas aux normes de la société et qui étaient perçues comme incontrôlables. Un sentiment de méfiance, voire de terreur, pouvait naître à leur égard. L'image de femme indépendante et opprimée qu'est la sorcière est reprise par les féministes. J'ai donc demandé à des étudiants ce qu'ils pensaient de l'image de la sorcière.
Qu'est-ce qu'une sorcière selon moi ? C'est un personnage avec plein de potions, qui peut jeter des sorts, qui est un peu méchante et mal vue, et qui se balade sur un balai.
Les sorcières seraient des femmes qui faisaient de la magie et on y pense souvent pour moi là, avec Halloween, ça sort pas de ça.
Pour moi, les sorcières c'est des êtres mystiques qui font des petites potions à la cool au fond de la forêt, loin de tout le monde. On peut même dire qu'elles ressemblent un peu à des médecins du Moyen-Âge qui t'aident pour le moindre problème.
À quoi associez-vous les sorcières ?
Poison. Le chaudron, les potions, enfin tout le folklore qu'on va avoir autour du mythe.
Moi, dès qu'on me dit sorcière, je pense au dessin et à toutes les illustrations qu'on peut faire où il y a de la forêt, de la magie, des ambiances mystérieuses avec plein de petites potions et son grand chapeau.
Balai. D'accord. Potion.
Et que pensez-vous du fait d'utiliser une figure associée à de multiples légendes pour une cause comme le féminisme ?
Honnêtement, j'aurais jamais associé féminisme et sorcière. Parce que c'est, je vois pas le rapport entre le côté magique, on va dire, et un mouvement fort tel que le féminisme.
Je comprends dans le fond le message et ce qu'elles veulent dire, mais non, je trouve quand même pas ça hyper positif.
Alors je trouve pas que ce soit forcément une mauvaise idée, mais après pour ce qu'il en est d'utiliser cette image alors que c'est une figure de mythe, je trouve. Mais il n'y a rien de problématique.
Pourquoi pensez-vous que le personnage de la sorcière est-il encore populaire aujourd'hui ?
Je pense que c'est en grande partie avec les dessins animés, tout ça, je pense que c'est grâce... Enfin, en tout cas, qu'aujourd'hui, ça soit encore représenté et tout, je pense que c'est en grande partie à cause de ça. Et aussi avec la fête d'Halloween.
Donc je pense que c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens se sont intéressés et qu'il s'est pas juste arrêté au mythe pour Halloween des enfants qui se déguisent en sorcières. Donc oui, je pense qu'il est encore d'actualité parce que des gens continuent à s'y intéresser.
Je pense que si le personnage de la sorcière existe encore, c'est un peu beaucoup grâce aux artistes qui continuent de faire plein de dessins pendant Halloween ou des trucs comme ça.
En résumé, la sorcière est un personnage mythique auquel on associe la magie, la guérison et divers éléments comme la potion, le balai volant, etc. C'est effectivement une image véhiculée par la culture populaire, notamment dans les dessins animés, l'illustration et bien évidemment lors de la fête d'Halloween. La sorcière a à la fois une image plutôt positive de guérisseuse connectée à la nature et aux plantes, et en même temps assez péjorative quand on pense à Halloween, fête associée aux morts et à la peur, ou encore à la magie noire. Ces deux visions correspondent en fait à deux mythes différents sur la sorcière qui perdurent encore aujourd'hui. Les chasses aux sorcières, entre le XIIIe et le XVIe siècle, souvent en période de crise selon les estimations de certains historiens, concerneraient des dizaines de milliers de condamnés, dont environ 80% étaient des femmes. C'est cette oppression que s'approprient aujourd'hui les féministes pour en faire une force. Seulement, la sorcière n'est pas seulement un mythe et une partie de notre histoire. Au Ghana, par exemple, on recense aujourd'hui plusieurs camps de sorcières gérés par l'État, dont celles-ci sont les prisonnières accusées d'avoir pratiqué la magie noire ou lancé des sorts. Loin des mythes, l'oppression des sorcières est bien réelle.
Merci beaucoup à Clémence Fourel pour ce micro-trottoir. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents. Les légendes, c'est le sujet de notre émission, et c'est aussi le titre de la chanson d'Aznavour et les compagnons de la chanson. On écoute tout de suite la légende de Stenka Razin.
Lentement, le long des îles, souffle le vent, roule les flots, glissent les barques agiles.
Christine, batte les cœurs, parle les voix, tiens sa belle douce et fine, tendrement au creux de ses bras. La 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 la.
Pas de femme en notre cercle, serre les poings, monte les cris, la colombe a soumis l'aigle, le marin n'est plus qu'un mari.
Et Rasine reste calme, grincez les dents, haussez le ton, rien peut changer mon âme, ni l'amour, ni la rébellion. Parlant au fleuve, Volga de mort, Volga de vie, Volga, mes amours, pour toujours au fond de ton lit.
Mes amis, chantez que diable, buvez le vin jusqu'à la lit, jusqu'à rouler. Jusqu'à demain, jusqu'à l'oubli.
Profitons de ce voyage qui ne dure pas.
Au fond de mon verre, il y a l'oubli du temps qui passe. Le vin et l'ami sincère sont remèdes à l'angoisse.
Aujourd'hui pleure, misère, demain caravolte passe et tout changera. Souffle le vent, roule les flots,
glisse l'air, agile,
vas-y, laissez matelot.
La 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 la,
vas-y, laissez matelot.
Et après ce petit moment musical, on retrouve Guillaume Dubu et son invité qui est spécialiste des légendes urbaines.
J'annonce l'invité sur Radio Campus.
Bonjour Guillaume, j'ai eu la chance de discuter avec Aurore van de Winkel, notamment auteur du livre Les légendes urbaines de Belgique.
Est-ce que vous pouvez déjà un petit peu vous présenter en quelques mots et expliquer l'axe de vos recherches?
Donc, je suis docteur en information et communication. J'ai fait ma thèse sur les légendes urbaines et je suis actuellement collaboratrice scientifique de l'Institut de langage et communication de l'Université catholique de Louvain. Donc, j'ai choisi les légendes urbaines parce que c'était un sujet qui m'interpellait très fort, notamment au niveau de la croyance que l'on pouvait porter dans leur contenu. Moi, j'avais déjà entendu ce genre de récits qui circulaient dans ma famille, chez mes amis, dans la société. Et certaines d'entre elles, j'ai pu y adhérer, j'ai pu les croire. Mmh. Et donc, j'avais envie de savoir pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'elles racontaient? Qu'est-ce qu'elles disaient de nous? Pourquoi est-ce qu'on y croyait?
Selon vos recherches, qu'est-ce qu'une croyance urbaine ou une légende urbaine?
Alors, une légende urbaine, ça se présente sous la forme d'un petit récit qui raconte les mésaventures de l'ami d'un ami à qui il arrivait des choses surprenantes, horribles, dégoûtantes ou drôles. Et les gens sont persuadés que c'est arrivé. Donc les personnes qui diffusent l'histoire vont être persuadées ou en tout cas vont croire partiellement au fait que cette histoire est bien arrivée. Et elle va généralement se localiser dans un lieu assez proche des personnes qui la diffusent. Donc on va dire que ça s'est passé dans le quartier, dans telle rue, dans tel endroit où on a l'habitude d'aller, que ce soit une gare, que ce soit un centre commercial ou un centre plutôt récréatif, ce genre de choses. Qui s'est passé dans un passé récent, donc quelque chose que l'on considère comme récent. Alors qu'en fait, ce sont des récits qui circulent depuis de très nombreuses années.
Est-ce que, selon vous, il y a un lien qui semble évident entre l'omniprésence des réseaux sociaux et le partage de ces légendes urbaines ?
Alors, la légende urbaine, on ne sait pas évidemment quand a eu lieu ou quand s'est diffusée la première légende urbaine, puisqu'on ne connaît que celles qui ont réussi. Hein, donc, oui. Chaque jour, quand vous discutez avec vos proches, quelque part, il y a des récits qui peuvent se créer. Qui peuvent se diffuser, mais tous n'ont pas le même taux de succès. Donc on va connaître celles que les gens dont le scénario a vraiment réussi à fonctionner. Et donc, elles existent depuis très très longtemps. Elles existent depuis très très longtemps, elles se recyclent, elles se réactualisent, elles s'ancrent dans le quotidien et dans le monde contemporain, mais elles peuvent être nées à cause d'un fait réel, par exemple, qui s'est passé il y a plusieurs siècles. Hein. Donc ça, c'est vraiment... Alors, du coup, les réseaux sociaux, en tout cas numériques, tels qu'on les entend aujourd'hui, oui. N'existaient pas forcément.
Oui.
Ce qui a changé avec le numérique, c'est quelque part une plus grande vitesse de diffusion. Et donc, une facilité pour leur internationalisation.
D'accord.
Donc même si avant, des légendes urbaines pouvaient se créer, par exemple, en Italie et être diffusées en France ou même aux États-Unis...
Oui.
Ou inversement, ça prenait un peu plus de temps parce que ça se faisait grâce aux voyages touristiques, voyages professionnels, avec des lettres entre familles par exemple, ou par téléphone un peu plus tard. Tandis qu'aujourd'hui, disons qu'un post sur un réseau social pourra se diffuser de manière beaucoup plus rapide. Ce que va faire aussi les réseaux sociaux, c'est le fait qu'avec le petit bouton transféré, certains récits vont se cristalliser dans un contenu écrit très très précis, et donc l'histoire va un petit peu moins se modifier, même si elle se modifiera toujours concernant la ville où se serait passée la mésaventure, le moment où cette mésaventure se serait déroulée, et alors d'autres petits détails qui permettent aux gens qui la racontent de donner vraiment l'impression que ça s'est passé près de chez eux.
On parle beaucoup en ce moment de complotisme, de théorie du complot. Est-ce que une légende urbaine peut être le départ de ces théories, de ces sujets liés au complot ?
Alors, moi, je rapprocherais plus les histoires complotistes de rumeurs, en fait.
Hein.
Pour moi, ce serait plutôt là-dedans que dans la légende urbaine. Effectivement, elles ont un scénario qui est toujours un petit peu commun. Donc, en gros, les grands événements d'actualité sont orchestrés par un petit groupe d'individus qui conspirent afin de défendre leurs intérêts. Et sur cette base-là, va se construire des tas d'histoires. Alors, ce qui est assez intéressant dans votre question, c'est qu'effectivement, tous ces énoncés rumoraux, comme je les appelle, hein, qui peuvent comprendre les ragots, les légendes urbaines, les rumeurs, mais aussi les hoax, donc les canulars, par exemple, mais qui sont par la suite diffusés au point que certaines personnes peuvent croire que finalement ces canulars sont des histoires vraies, vont participer un petit peu du même phénomène et vont se côtoyer, mais plus que se côtoyer, vont s'inspirer l'une de l'autre.
D'accord,
hein, donc,
oui.
Donc il peut y avoir des passages d'un genre à l'autre. Parfois, donc il y a un fait réel qui est à l'origine de la légende urbaine, donc même si la légende urbaine est toujours fausse, il se peut parfois qu'il y ait un événement réel qui a son origine. Je vous donne un exemple, on parle souvent des sadiques qui donnent des bonbons empoisonnés aux enfants, mais il y a eu un véritable scandale alimentaire au XVIIe siècle en France, où les confiseurs avaient mis un petit peu d'arsenic pour colorer les bonbons,
Oui. Qui
avait été une très très bonne idée, on va dire. Et ce véritable scandale s'est transformé en différentes petites histoires qui mentionnaient chaque fois un méchant d'époque, hein, donc un bouc émissaire de l'époque. Donc ça a pu être les sorcières qui donnaient des bonbons empoisonnés aux enfants, puis c'était le soldat allemand. Voilà, et ça va diffuser en différentes petites histoires comme ça qui vont mettre en, enfin, qui vont permettre de parler de ces boucs émissaires, de ces méchants à qui on attribue cette action. Et parfois, certaines légendes urbaines, dont fausses, peuvent provoquer des cas réels. Et ça, c'est le phénomène d'ostension qui est assez intéressant à discuter, puisqu'en fait, c'est le fait que certaines personnes interpellées par les légendes urbaines vont les mettre en fait, vont les mettre en réel. Donc, ça peut être des criminels qui vont rejouer le scénario d'une légende urbaine, par exemple.
D'accord, oui. D'accord.
Et donc, même la il y a toujours une porosité entre ce qui est vrai et ce qui est faux, finalement. Si quelque chose de vrai peut devenir faux,
oui.
Si l'histoire est totalement transformée et utilisée à d'autres fins, par exemple, et quelque chose de faux peut devenir vrai.
Merci beaucoup à Guillaume Dubu et son invité pour cette interview. Maintenant, on reste dans le thème et on va s'écouter Legend par The Score. On a beau être confiné, Radio Campus ne recule devant rien et veut vous faire voyager. Alors Mathilde Tassin a décidé de vous emmener au Mexique pour sa chronique internationale. Elle va vous parler d'une divinité très connue là-bas. Prenez place et attachez vos ceintures, c'est la chronique internationale.
Tout de suite, la chronique internationale spéciale légende. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Quetzalcoatl, le dieu des Aztèques et Toltèques. Je vous emmène donc sur les terres mexicaines où cette divinité est à l'origine de plusieurs mythes fondateurs. Marchons à présent à travers cette forêt exotique à la rencontre de Quetzalcoatl. sous sa forme divine, vous ne pourrez que le voir, lui qui se présente comme un immense serpent aux plumes vertes, bleues, jaunes et rouges. Mais d'où vient donc cette apparence? Eh bien, tout simplement de son nom. En effet, Quetzal est un oiseau divin au plumage vert et rouge, tandis que Coatl signifie serpent. C'est donc littéralement un oiseau serpent. Et cet être majestueux serait pour beaucoup le dieu de la fertilité, mais serait aussi à l'origine de l'humanité. En effet, selon la légende des soleils, les dieux auraient envoyé Quetzalcoatl au Mictlan, qui n'est autre que le monde entre les morts, pour récupérer des ossements humains de mondes anciens, afin de faire vivre éternellement les humains sur la terre. Mais Quetzalcoatl, pour y parvenir, devra d'abord affronter les seigneurs des enfers et se soumettre à leurs défis. Siffler dans leur coquillage de conque pour en faire sortir de la musique. Or, Quetzalcoatl, bien plus malin, comprit bien vite que le coquillage était dépourvu d'ouverture. La légende raconte d'ailleurs qu'il fit appel à des cousanos, petits vers et des abeilles pour percer le coquillage et en faire sortir de la musique. Les seigneurs, mécontents, pourchassèrent Quetzalcoatl après lui avoir donné les ossements et envoyèrent leurs serviteurs pousser le dieu dans un trou profond. Satisfaits de voir les eaux brisées, ils partirent et laissèrent Quetzalcoatl. Mais déterminé, le serpent oiseau ne se laissa pas abattre et avec les dieux, arrosèrent de leur sang les eaux fracturées, ce qui expliquerait aujourd'hui la différence de taille entre les humains. De cette légende, les Mexicains tirent beaucoup de leurs croyances, et au contraire de nous autres Européens pour qui le squelette est symbole de mort, chez les Mexicains, il est synonyme de vie, de renouveau et de résurrection. De nombreux mythes entourent aussi la mort de Quetzalcoatl. On raconte notamment qu'après être parti pour affronter la mer, il fit prévenir ses ennemis qu'il reviendrait. Ce miracle arriva en 1519. Lorsque les navires du conquistador Hernán Cortés accostèrent à Veracruz, ce fut pour les Aztèques le signe du retour de leur dieu. Cortés, cet être si étrange et qui avait le pouvoir de monter sur ces animaux inconnus que l'on appelait chevaux, ne pouvait être que la réincarnation de Quetzalcoatl. Il existe aussi un autre mythe qui raconte que des oiseaux jaillirent du grand brasier dans lequel Quetzalcoatl s'était immolé et que de son cœur qui s'éleva dans les cieux naquit l'astre de Vénus. Notre voyage se termine ici, mais n'oubliez pas d'ouvrir grand les yeux lorsque vous vous rendrez au Mexique. Qui sait, peut-être verrez-vous ce serpent aux plumes majestueuses et aux couleurs magiques.
Merci à Mathilde Tassin pour ce voyage très instructif. Je sais pas vous, mais j'ai pas envie de rentrer tout de suite en France. Ça tombe bien, la chronique de Jean-Baptiste Brine va nous emmener en Irlande pour nous parler des légendes qui sont tombées dans l'oubli.
Et maintenant, sur Radio Campus, la légende irlandaise de Cúchulainn, le chien d'Ulster. Bonjour à toutes et à tous. L'émergence du catholicisme en Europe a passé sous silence ou éclipsé certaines légendes païennes. L'Irlande, comme d'autres pays à la culture méconnue, n'a pas de grande mythologie célèbre. Pour cause, ces mythes étaient comptés à voix haute et rarement apposés sur papier. Ainsi, les histoires d'un même personnage peuvent diverger. Mais les légendes de l'île d'Émeraude se retrouvent ainsi imprégnées d'une sorte de mystère folklorique. C'est l'histoire du plus grand guerrier irlandais, Cúchulainn, de son vrai nom Setanta, que je vais vous conter aujourd'hui. Plus précisément, son premier fait d'armes qu'il l'a lancé sur son chemin de héros. À l'origine, Setanta est né un demi-dieu. Fils de Lugh, membre du peuple primordial de l'Irlande, les Tuatha De Danann, et dieu de la lumière, un prophète prédit à Setanta une légende éternelle, mais aussi que sa vie sera très courte. Véritable personnification du pugilat, il est parfois pris d'une rage incontrôlable, appelée le Riastrad, qui le transforme en mastodonte inarrêtable et dénué de raison, sorte de Hulk irlandais. Mais avant qu'il s'illustre au combat plus tard dans sa vie, il commence à forger sa légende très jeune. Un jour, l'oncle de Setanta, Concobar Mac Nessa, le roi d'Ulster, est invité par le forgeron Cúchulainn à un festin dans la demeure de ce dernier. Cependant, la maison de Cúchulainn est petite. Le roi est donc prié de ne sélectionner que quelques invités. Impressionné par les compétences sportives et militaires de son neveu Setanta, qui n'est encore qu'un adolescent, le roi lui propose de se joindre au festin le soir même. Seulement, le jeune homme est alors en pleine partie de hurling, un sport traditionnel irlandais, et répond à son oncle qu'il viendra une fois qu'il aura terminé. Le roi et sa cour se rendent alors chez Culain pour festoyer. La fête bat son plein et Concobar oublie que son neveu doit passer. Néanmoins, Setanta, lui, après avoir remporté sa partie, est en route pour se joindre au banquet. Culain, trop pauvre pour faire défendre sa demeure par des gardes, possède en revanche un énorme chien de la taille d'un cheval, prêt à bondir sur n'importe quel intrus. N'étant pas au courant de l'arrivée de l'invité retardataire, Culain avait sorti son chien, qui attaque Setanta à son arrivée. En entendant leur affût, le roi se précipite dehors, terrifié quant au sort de son neveu. La scène sur laquelle il tombe alors le laisse bouche bée. Le hurling, dont j'ai parlé précédemment, se joue avec une longue crosse en bois et une balle similaire à celle d'une balle de baseball appelée sliotar. Étant parti juste après son match, Setanta avait toujours sur lui sa crosse et sa balle. En voyant le chien lui bondir dessus, il a frappé dans sa balle avec une telle combinaison de force et de précision pour qu'elle vienne se loger dans la gorge du chien, l'étouffant par la même occasion. Dans certaines autres histoires, Cuchulainn, ou Setanta, bat même le chien à main nue. Le roi et sa cour acclament alors l'adolescent, mais derrière eux, un homme est en larmes. C'est Culain. Il est bien évidemment soulagé pour Setanta, mais la perte de son fidèle chien de garde lui fend le cœur. Setanta, pour repayer alors sa dette, se propose de remplacer l'animal et de défendre la maison de Culain dans l'attente d'un nouveau chien. Il se met alors à veiller tous les soirs auprès de la demeure, ne faillant jamais à sa tâche. C'est par cet épisode que sa légende guerrière commence, par une épreuve qui a réellement révélé en lui cette qualité héroïque et altruiste. Setanta devient alors le chien de Culain, ou en irlandais, Cuchulainn.
Merci beaucoup à Jean-Baptiste Brin pour sa chronique très enrichissante. Pouvions-nous faire une matinale sans écouter ces deux légendes de la chanson française ? Je laisse ma place à Johnny Hallyday et Eddie Mitchell pour « On est des légendes ».
L'ex-Beatle John Lennon disait que le rock and roll était mort. Le jour où Elvis Presley faisait le jihad près de Francfort. Certains disent que le King Vieto dans une île cachée, un endroit sûr. J'espère pour lui qu'il est bien mort. Battu tant sous terre, ça serait trop dur. On veut des légendes à consommer toute près de sur commande. Les hommes politiques l'ont bien compris. Ils promettent de beaux lendemains. Une fois au pouvoir, ils nous oublient. Ils disent laisse faire, m'occupe de rien. Celui qui sauve, loyal et bon. On peut faire une croix sur ce Messie. Y a qu'un Jésus digne de ce nom. On veut des légendes
insectes nourrissent nos illusions. On veut des légendes.
Radio Campus est au petit soin pour ses auditeurs et vous prépare régulièrement une série de conseils pour vous aider à vous sentir bien. Aujourd'hui, c'est Prune Avemani à la chronique pratique qui va vous donner des conseils spécial rue Broca. Allez, c'est parti!
Vous voulez des tips et conseils sur les légendes? Alors écoutez bien la chronique pratique de Prune.
Bonjour à tous, si je vous dis monstre du Loch Ness, Père Noël, Dame Blanche, forêt brocéliande ou sorcière du placard à balai, vous l'aurez compris, on parle de légendes sur Radio Campus. C'est l'heure des infos pratiques et aujourd'hui vous allez avoir l'exclusivité de vous rapprocher au plus près de tous ces mythes. Pour commencer, c'est vers les États-Unis que je vous emmène puisqu'on va étudier la zone 51, cette base militaire secrète du Nevada, aussi appelée Dreamland, testerait des appareils expérimentaux, entre autres. Elle est mentionnée pour la première fois sur des documents aériens déclassifiés en août 2013 et est depuis 1989 liée aux théories d'OVNI. Beaucoup s'accordent à dire qu'elle serait le lieu d'échanges secrets entre l'armée américaine et les extraterrestres et serait même l'abri d'un vaisseau spatial qui se serait échoué plus loin. Pour l'atteindre, bien qu'elle ait des coordonnées GPS précises, ce n'est tout de même pas si simple. Tous les employés qui y travaillent rejoignent la zone par avion et très peu de routes y mènent. Même si vous les trouvez, il faudra ensuite s'arrêter à la dernière station-service qui est à 80 km de l'objectif, faire le reste de la route à pied sous le soleil et une fois arrivé, déjouer les caméras, grillages, drones et balles qui tirent déjà sur les oiseaux 20 km autour de la zone. Si vous voulez quand même adresser un message aux extraterrestres, vous pouvez leur laisser un mot dans la boîte aux lettres située à 60 km de la zone. Selon la légende, les forces américaines le transmettront à nos amis de l'espace. Côté Écosse, c'est le monstre du Loch Ness qui est à l'honneur. Surnommé Nessie, c'est une créature lacustre légendaire ressemblant à un serpent de mer ou à un plésiosaure vivant dans le Loch Ness. De nombreux témoins disent l'avoir vu, bien que les preuves manquent, mais si cette histoire vous titille, il est tout à fait possible d'aller vérifier par vous-même. Les coordonnées GPS sont elles aussi en libre accès, on les trouve facilement sur internet. 57 degrés nord, 12 minutes 52 secondes et 4 degrés ouest, 34 minutes 14 secondes. Si le voyage vous semble toutefois trop long pour une simple curiosité de passage, vous pouvez vous contenter de regarder le film à son sujet. Enfin, puisque c'est souvent l'horreur qui plaît le plus, on va parler de l'abbaye hantée de Mortemer et de sa Dame Blanche. Pour accéder à l'abbaye, vous pouvez passer par les petits villages de Liézer ou Lyon-la-Forêt et ensuite atteindre des routes étroites donnant sur le lieu isolé. La Dame Blanche y vivrait. Mais si vous vous sentez frustré de savoir la Dame Blanche si loin de vous, ne vous inquiétez pas, cette femme tueuse d'enfants joueurs et d'hommes fait des déplacements à domicile. Pour l'appeler, rien de plus simple, dites trois fois Dame Blanche devant le miroir, tournez trois fois sur vous-même encore devant un miroir, Ou alors attendez-la dans un coin d'une forêt, elle y fait souvent l'autostoppeuse pour égorger les passants. Côté circulation, faites attention, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et le confinement est l'occasion pour beaucoup de nos amies sorcières de faire de petites promenades dans le ciel. La circulation de ce week-end de novembre est donc au rouge, les voies rapides célestes sont encombrées par de nombreux balais volants. Attention toutefois, pour ceux qui désiraient sortir, un accident a eu lieu sur la C38, 50 mètres au-dessus du sol. Un usager signale qu'un tapis volant aurait percuté un corbeau et les débris n'ont toujours pas été retrouvés. Côté météo, en revanche, tout va très bien, dehors le temps est bon, le ciel est bleu dans toute la région française et jusqu'en Laponie. C'est l'occasion pour le Père Noël de faire un atelier bronzette avec les lutins. Il dit, je cite...
Oh, c'est vraiment super le réchauffement climatique. C'est la première fois que j'ai un coup de soleil.
Les infos pratiques sont désormais terminées. N'oubliez pas, demain on fête le 284e anniversaire de la sorcière du placard à balai. Il serait judicieux de lui souhaiter, si vous ne voulez pas, finir en grenouille. Et en attendant, je vous laisse avec la suite de l'émission. Et je vous dis à la prochaine.
Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis.
C'est déjà la fin de notre émission. J'espère que toutes ces légendes vous auront mis des étoiles dans les yeux. N'oubliez pas que vous pouvez nous réécouter ou découvrir d'autres programmes en podcast sur campuslille.com. Je voudrais remercier nos chroniqueurs du jour, Gabin Boquet, Léonie Castelin, Mathilde Tassin, Jean-Baptiste Brine et Prune Avemani. Merci également à Clémence Fourel pour son micro-trottoir et Guillaume Dubu pour son interview. Enfin, merci aux deux personnes qui ont rendu cette émission possible, notre secrétaire de rédaction, Léonie Castelin, et Philippine Quentin à la réalisation technique. On se quitte en écoutant un dernier morceau, Legend, par Drake. À bientôt sur Radio Campus. Yeah.
When I pull up on a nigga, tell that nigga bad back. I'm too good with these words, watch a nigga bad track. If I die, all I know is I'm a motherfucking legend. It's too late for my city, I'm the youngest nigga reppin'. Oh my God, if I die, I'm a legend. Oh my God, if I die, I'm a legend. I'm a first, I'm on tour. Got a girl, she from the side. Used to work, used to dance in Texas. Now she clean the house every day. I was struggling to learn what life's about. On my way, money taught me Spanish. Make it on delay. Way up north, packing Honda cars. They don't know who we are. Fuck them all. They only pussy niggas shooting at the star. Right or wrong, I'ma right my wrongs. They can't live this long. You don't know where you're gonna go. I got this shit mapped out strong. When I pull up on a nigga, tell that nigga bad back. I'm too good with these words, watch a nigga bad track. All I know, if I die, I'm a motherfucking legend. It's too late for my city, I'm the youngest nigga rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. Oh my God, if I die, I'm a legend. I'm the one, one. Why do I feel like the only one? Why do I feel like you owe me one? 6GOD, I'm the holy one. Yeah, you know what's up. Yeah, they been up for a minute now. You know they all sentimental now. You know they all acting different now. And I just can't pretend. Seen too much. It's so hard for me to let new people in. I can't change. This shit set in stone. They can't live this long. You don't know where you're gonna go. I got this shit mapped out strong. When I pull up on a nigga, tell that nigga bad back. I'm too good with these words, watch a nigga bad track. All I know, if I die, I'm a motherfucking legend. It's too late for my city, I'm the youngest nigga rapping. Oh my God,
If I die, I'm a legend. Oh my God, oh my God. If I die, I'm a legend. I'm the one.
Ne dire que le temps d'un regard, je ne la trouve pas facile. J'ai voulu nous.